de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le chef de l'UNICEF qualifie la situation à Gaza de déchirante. Le premier camion transportant du carburant traverse Gaza. Le président Joko Widodo a transmis les trois axes du caucus de l'ASEAN, y compris la question de la transition énergétique. Chers amis, nous présentons maintenant le journal incomplet. Le chef de l'Agence des Nations Unies pour l'enfant, ou l'UNICEF, a qualifié mercredi la situation dans la bande de Gaza de déchirante au milieu des attaques meurtrières israéliennes contre le territoire palestinien assiégé. La directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell, a déclaré dans un communiqué qu'à l'intérieur de la bande de Gaza, il n'y a aucun endroit sûr où le million d'enfants de Gaza pourrait fuir. Russell a déclaré que plus de 4600 enfants dans la bande de Gaza ont été tués et près de 9000 autres ont été blessés. Elle a exhorté parties impliquées dans le conflit de Gaza pour mettre fin à cette horreur. Le premier camion transportant du carburant vers la bande de Gaza depuis que Israël a complètement encerclé l'enclave palestinienne ont commencé à traverser mercredi depuis l'Égypte, selon deux sources de sécurité égyptiennes. Des témoins oculaires ont déclaré que deux autres camions faisaient la queue du côté égyptien à le passage de Rafah pour entrer à Gaza. Des expéditions limitées d'aide humanitaire ont été acheminées d'Égypte vers Gaza depuis le 21 octobre 2023, mais Israël a refusé l'entrée de l'aide de carburant. L'Organisation des Nations Unies a averti ces derniers jours qu'elle devait arrêter les opérations humanitaires, y compris les livraisons d'aide à Gaza, parce que les réserves de carburant s'épuisent. Le président indonésien Joko Widodo a présenté trois domaines de coopération, y compris la transition énergétique dans la région, qui pourrait être au centre du caucus de l'ASEAN au sein du Conseil consultatif des gens d'affaires de l'APEC. Lors de l'ABAC ASEAN Caucus Day à San Francisco, les États-Unis, mercredi, le président Joko Widodo a déclaré que la première priorité était d'accélérer la transition énergétique, notamment concernant l'accord de l'ASEAN visant à devenir une plaque tournante mondiale pour l'industrie des véhicules électriques. Jokowi, dans un communiqué du bureau de presse du secrétariat présidentiel reçu jeudi à Jakarta, a déclaré que le caucus de l'ASEAN pourrait jouer un rôle important dans le renforcement de cette initiative. D'un autre côté, la transition énergétique nécessite également un soutien aux investissements, un soutien technologique où l'initiative du Fonds d'impact Indo-Pacifique peut jouer un rôle important. Un autre objectif important est la question de la neutralité carbone. Jokowi a déclaré que l'économie doit continuer à se développer conformément à l'engagement de l'ASEAN à contribuer à la protection de l'environnement. Il a également encouragé le rôle actif du caucus de l'ASEAN de soutenir l'engagement de l'ASEAN à accélérer la mise en œuvre des paiements numériques aux frontières par une collaboration avec les institutions financières. Le président Jokowi a également souligné que l'ASEAN est une région stratégique dotée d'un capital solide pour devenir le centre de la croissance mondiale. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La 17e réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN à Jakarta mercredi, dans une déclaration commune, exhorte la déclaration commune de Jakarta à de nouveau exhorté les dirigeants des pays de l'ASEAN à accepter immédiatement la conclusion initiale du code de conduite en mer de Chine méridionale. Les ministres de la Défense de l'ASEAN, à l'exception du Myanmar, ont souligné la nécessité de s'entendre immédiatement sur des lignes directrices pour un comportement en mer de Chine méridionale qui soit conforme à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Le contenu de la Déclaration commune de Jakarta comprend entre autres la mise en œuvre de la déclaration sur les lignes directrices dans la mer de Chine méridionale dans son ensemble. La 17e réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN, présidée par le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, a également souligné l'importance de maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et aussi de vol au-dessous des eaux de la mer de Chine méridionale. Dans le document de déclaration conjointe, les ministres de la Défense participant à la 17e réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN croient également à la nécessité de faire de la mer de Chine méridionale une voie navigable pacifique. Le ministre coordinateur des Affaires économiques, M. Erlangga Hartarto, et les ministres de l'économie des 13 pays partenaires du cadre économique Indo-Pacifique ont signé l'accord sur la chaîne d'approvisionnement lors de la 3e réunion ministérielle sur le cadre économique Indo-Pacifique à San Francisco aux États-Unis mardi 14 novembre heure locale. L'accord motivé par le fort désir des pays partenaires du cadre économique Indo-Pacifique de disposer d'une chaîne d'approvisionnement solide et compétitif dans la région Indo-Pacifique, aboutissant au premier accord de chaîne d'approvisionnement au monde. Le ministre Erlangga, dans un communiqué publié mercredi à Jakarta, a déclaré l'accord comme une forme d'engagement de l'Indonésie à contribuer au renforcement des chaînes d'approvisionnement dans la région. Chaque pays membre du cadre économique Indo-Pacifique fournira une présentation officielle de haut niveau à chaque organisme tripartite. La composition de l'organisation est composée de représentants de gouvernement, travailleurs et employeurs. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici la queue diplomatique ayant pour le titre l'équipe kazakh pencak silat avec le soutien de l'ambassade indonésienne remporte 9 médailles d'or au championnat de Dubaï. L'équipe pencak silat du Kazakhstan avec le soutien de l'ambassade d'Indonésie à Astana a remporté 9 médailles d'or au 7e championnat asiatique senior pencak silat et au premier championnat ouvert du Moyen-Orient à Dubaï du 7 au 13 novembre. L'ambassadeur d'Indonésie au Kazakhstan, M. Fadjlul Rahman, dans son communiqué reçu mardi 14 novembre à Jakarta, a déclaré que la diplomatie pencak silat est importante parce que les deux pays aiment le sport d'arts martiaux. Selon Fadjlul, l'Indonésie souhaite renforcer ses relations avec le Kazakhstan et le Tadjikistan à travers le pencak silat car les peuples du Kazakhstan et du Tadjikistan aiment le sport d'arts martiaux. En dehors de cela, pencak silat est reconnu comme patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO depuis 2019. L'ambassade d'Indonésie à Astana, en collaboration avec le ministère des Sports, l'Association indonésienne de pencak silat, IPSI, la Fédération de pencak silat entre les nations, persilat et des universités, a apporté son soutien au progrès du pencak silat au Kazakhstan. Ce soutien comprend faire venir des entraîneurs d'Indonésie, l'allocation de bâtiments de tournoi, la fourniture d'uniformes de silat, de vêtements de protection et des biens de pencak silat, ainsi qu'un soutien régulier aux tournois de pencak silat au niveau régional et national. En outre, l'ambassade d'Indonésie à Astana a inauguré le pencak silat Corner le 28 novembre de l'année dernière pour permettre aux artistes martiaux de trouver plus facilement des références liées à ce sport d'arts martiaux. Cette année, l'ambassade d'Indonésie a fait venir trois formateurs de silat, à savoir Abdul Haris, Lucky Fatur Rahman et Tri Utaminingsih, grâce à la collaboration avec l'Université d'État de Yogyakarta et l'Association de pencak silat du Kazakhstan. Les trois formateurs se sont ensuite rendus pendant trois mois dans plusieurs villes du Kazakhstan pour aider les artistes martiaux à se préparer au championnat, dont celui de Dubaï. Les réalisations réalisées sont assez impressionnantes, depuis la victoire d'une médaille d'argent et d'une médaille de bronze à Malacca en Malaisie en 2022, jusqu'à la victoire de 9 médailles d'or au championnat international de Dubaï en 2023. La participation et les réalisations de l'équipe du Kazakhstan marquent une étape importante dans le développement de pencak silat dans ce pays eurasien afin qu'à l'avenir, le Kazakhstan puisse devenir la capitale de pencak silat en Asie centrale et en Eurasie. C'est Jurita, c'était la diplomatique pour ce soir. C'est Jurita, bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 16 novembre 2010, Journée mondiale de l'enclume. La Journée mondiale de l'enclume est une journée importante pour commémorer le jour où l'enclume a été reconnue par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'Indonésie. La Journée mondiale de l'enclume est célébrée chaque 16 novembre à partir de la date à laquelle l'enclume a été reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Indonésie par l'UNESCO le 16 novembre 2010. Passons maintenant à l'événement du 16 novembre 1995, Journée internationale de la tolérance. La Journée internationale de la tolérance est une journée de réflexion et de campagne pour la prise de conscience du respect mutuel et du respect des différences de chacun. La Journée internationale de la tolérance a été déclarée par l'UNESCO à l'occasion du 50e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, ONU, le 16 novembre 1995. Ce jour-là, les pays membres de l'UNESCO ont adopté la déclaration de principe sur la tolérance qui affirme que la tolérance est un moyen d'éviter l'indifférence dans la vie sociale. À la suite de cette déclaration, chaque 16 novembre 1996, les membres de l'ONU étaient invités à déclarer la Journée internationale de la tolérance. Thank you. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 16 novembre 2002. Le SRAS a été enregistré pour la première fois dans le Guangdong, en Chine. Le 16 novembre 2002, le premier cas du virus du SRAS, ou syndrome respiratoire aigu sévère, a été enregistré pour la première fois à Guangdong, en Chine. Cette maladie est causée par le coronavirus associé au SRAS ou SRAS-CoV, qui fait partie de la famille de coronavirus responsable de la COVID-19. C'est Jurita, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Tak selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie. Donc le titre est « Ministre de l'Environnement et des Forêts discute de développement forestier avec des universités, l'Université Gadjah Mada ». La ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nbraya Bakar, a tenu une réunion avec 20 professeurs et doyens de faculté des forêts de l'Université Gadjah Mada, UGM, pour discuter du thème du développement forestier durable en Indonésie. En ouvrant la réunion à Jakarta, mardi 13 novembre 2023, la ministre Siti Nbraya Bakar a déclaré que la réunion avait été organisée pour examiner le paradigme de développement forestier et les éléments qui pourraient être identifiés pour sa réorientation. Elle a déclaré qu'il est important de réorienter le paradigme du développement forestier durable en Indonésie à l'heure actuelle pour former une formulation afin qu'il devienne une note importante pour la gestion forestière future, y compris le plan forestier au niveau national ou RKTN. De cette réunion, la ministre de l'Environnement et des Forêts a transmis un certain nombre de notes. Premièrement, dans l'orientation de la fabrication verte, les méthodes utilisées dans la fabrication et l'industrie pour minimiser les déchets et la pollution grâce à la conception de produits et de processus dans le but principal de la durabilité constitueront le fondement du ministère à l'avenir. Ensuite, le règlement présidentiel sur le développement intégré des zones basées sur les forêts sociales existe désormais. En fait, le gouvernement a positionné les parcs nationaux comme des centres ou des sources de croissance économique régionale et comme des exemples de répartition régionale des revenus, comme le parc national de Komodo et le parc national du Mont Chiremai. La ministre Siti a également encouragé le développement de l'aire agroforestière Nusantara en tant que caractéristique de la gestion forestière indonésienne. Avec une approche de fabrication verte, elle a demandé d'être développée et étudiée le bassin du fleuve Bornéo avec les caractères du Kalimantan et tous les potentiels et perturbations qui existent dans l'écosystème et les forêts de Bornéo couvrant une superficie de 23 millions d'hectares. Pendant ce temps, le professeur de l'Université Gadjah Mada, San Afri Awang, a déclaré que sa partie appréciait les différentes choses qui ont été mises en œuvre par le ministère de l'Environnement et des Forêts. Beaucoup de choses ont été faites, y compris des percées grâce à des actions correctives et d'autres programmes du ministère de l'Environnement et des Forêts depuis 9 ans. En outre, San Afri Awang a souligné 7 points concernant les plans forestiers au niveau national, à savoir la préparation de plans macro pour la mise en œuvre de la foresterie, la préparation de plans forestiers au niveau provincial, la préparation de plans de gestion forestière au niveau des unités de gestion forestière, ensuite préparer des plans de développement forestier, préparer des plans de travail pour les efforts d'utilisation des forêts, coordonner la planification à long et moyen terme entre les secteurs et contrôler les activités de développement forestier. Selon elle, les 7 points doivent être revus pour voir leur adéquation avec le RKTN. C'était mon Indonésie pour ce soir.
Mataku, rasa hatiku, dengar pintaku untuk memilikimu, walau dunia harus berubah, namun cintaku tetapkan sama.
Takkan ada yang bisa menggantikan dirimu, telah ku relakan hidup untukmu.
Ku mencintai
hati. Dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Cintaku sejati.
Ini janjiku, janji setiaku. Sisa hidupku hanya untukmu.
Takkan ada yang bisa,
takkan ada yang bisa
menggantikan dirimu. Telah ku relakan hidup untukmu. Ku mencintai selamanya, tetap begitu. Apapun terjadi, dirimu diriku menyatu. Padamu hatiku berlabuh. Cintaku sejati. Apapun terjadi, dirimu diriku menyatu. Padamu hatiku berlabuh. Cintaku sejati.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, comme les places de Bangkok qui présentent généralement des rocheurs de granit caractéristiques, sur la place de Tonggachi, on trouve également des rocheurs de granit dispersés qui dominent le rivage. Même si elles présentent des similitudes avec les plages en général de Bangkok, la place de Tonggachi possède également un certain charme. Cette place possède un lieu de reproduction pour les bébés tortues ou ce qu'on appelle les nouveau-nés. La plage de Tonggachi est située sur Jalan Laut Kampung Pasir Sungai Liat. L'emplacement n'est pas loin du centre-ville de Sungai Liat, la capitale de la réserve de Bangka, qui se trouve à environ 7 km du centre-ville et est accessible en véhicule à deux ou quatre roues. Le temps de trajet est d'environ 45 minutes. Pour accéder à cette plage, il vous suffit de payer 10 000 rupiah pour le billet d'entrée et vous serez acquis par la beauté d'une belle plage et de sable doux. Ici, vous pouvez nager autant que vous le souhaitez. N'ayez pas peur de vous laisser emporter par les vagues, car la plage de Tongachi a été aménagée avec des pierres brises vagues. En plus de nager, vous pouvez jouer dans l'eau en essayant un bateau banane ou un canoë. Pour ceux d'entre vous qui aiment prendre des photos, il existe un certain nombre de spots photos intéressants dans cette région. Les gestionnaires de plage changent le panorama le long d'entrée de la plage avec des parasols colorés. Vous pouvez également prendre des photos avec les parapluies en arrière-plan. Il y a des restaurants, des bars et des cafés qui proposent divers délices culinaires typiques de Bangka que vous pourrez déguster. Dans cette place se trouve également le musée Garuda qui collectionne des livres anciens de la période coloniale et une galerie de livres. Contrairement aux plages en général de Bangka, sur la plage de Tongachi se trouve une garderie pour bébés tortues. Cet élevage a été initié le 28 mai 2009 et vient d'être ouvert au public depuis janvier 2015. Dans certains de nouveaux-nés, des tortues vertes et des tortues en briquet sont gardées ici. Si les tortues éclosent et grandissent avec succès, elles seront rejetées à la mer à environ 6 km de la place de Tongachi. Dans cette écloserie de tortues, vous pouvez voir des œufs de tortues, des bébés tortues et même des tortues adultes prêtes à être relâchées dans le vaste océan. C'est joli tard, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Serge Litar, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter l'Université de Brawijaya coopère avec le Japon pour lancer un centre de recherche sur la robotique et l'intelligence artificielle. L'Université de Brawijaya coopère avec diverses universités au Japon pour initier la création d'un centre de recherche sur la robotique et l'intelligence artificielle. Le vice-recteur 4 pour la planification, la coopération et internationalisation, M. Andy Kurniawan, a déclaré que la collaboration a été réalisée parce que l'Université de Brawijaya était considérée comme ayant un rôle important. L'une des collaborations est avec l'Université de la ville de Nagoya. En outre, des programmes d'études liés à la science des données et à la science des matériaux ont également été développés, ainsi que diverses collaborations dans le domaine académique, de la recherche et de l'innovation. Cette collaboration devrait apporter des avantages mutuels entre les deux universités. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, il est prévu de mener des recherches dans le domaine des sciences de la vie, notamment celles liées aux plantes médicinales. Le maître de conférence à la faculté d'informatique, M. Novanto Yudhistira, a ajouté qu'à l'avenir, la mise en œuvre de l'intelligence artificielle sera effectuée pour les mégadonnées au niveau moléculaire des plantes médicinales. L'espoir est donc qu'en utilisant la sophistication de l'intelligence artificielle, ils puissent explorer 7000 plantes médicinales utiles dans le secteur de la santé. Dans le domaine de la robotique, l'Université de Brawijaya et l'Université Waseda collaboreront à la fabrication d'un robot humanoïde, à savoir King of Brawijaya. La coopération avec l'Université Waseda est établie depuis 2019. L'Université de Brawijaya a choisi l'Université Waseda parce que c'est l'une des meilleures universités au monde, classé 200 par la version QS Star. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
pernah berjanji tapi tak setia. Katakan, katakan sejujurnya, bila ingin pisah, katakan sekarang. Ku tak ingin, tak jelas begitu saja sayang. Ku dicaci dan dimaki. Bila ingin pisah, katakan saja. Sayang, ku tak bisa, tak diharapkan, tak dirindukan, katakan saja. Katakan, katakan sejujurnya, bila ingin pisah, katakan sekarang. Ku tak ingin, tak jelas begitu.
Of Indonesia.
Langit begitu cerah. Hari berseri, tapi kenapa hatiku gelap bagai malam? Burung bersiul mengepakkan sayap. Tapi kenapa hatiku gundah tak berhenti? cintamu dengan dirinya.
Chers auditeurs, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie et de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical et cette fois, nous vous présentons une chanson de Stinky. Stinky est un groupe indonésien formé à Jakarta en 1992. La formation initiale de ce groupe musical était composée par Andre Taulani, chanteur, Endang S. Hartanto, guitariste, Nano Helman, guitariste, Irwan Batara, bassiste, et Eddie Darmawan, batterie. Leur premier album, intitulé Stinky, contient 10 chansons, avec la chanson Mungkinkah comme titre par. Cette chanson sortie en 1997 parle d'une personne qui vit une relation à distance. Cette chanson est une chanson part de la carrière de Stinky. Jusqu'à présent, la chanson intitulée Mungkinkah est toujours populaire parce qu'elle a une mélodie et des paroles faciles à écouter. Bon, chers auditeurs, voici une chanson intitulée Mungkinkah chantée par Stinky. Bonne écoute!
Tetes air mata basahi pipimu di saat kita akan berpisah. Terucapkan janji padamu kasihku, takkan ku lupakan dirimu. Begitu beratnya thank you.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.